RCF.
Bien qu'il se soit inspiré des découvertes de ses prédécesseurs, on attribue l'arrivée des premières ondes hertziennes au physicien et inventeur italien Marconi. Et cette invention va avoir des répercussions considérables, dont la plus marquante, sans doute, dans notre quotidien, est l'invention de la radio. Ce qui est au tout début un véritable meuble va investir les habitations et accompagner les auditeurs dans les périodes les plus ordinaires, les plus sombres et les plus heureuses aussi de leur existence ou de celle de leur pays. Marine Beccarelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes chercheuse en histoire de la radio et enseignante à l'université Sorbonne 1 et vous collaborez à France Culture. Nous allons avec vous évoquer cette histoire donc de la radio, un élément constitutif de la vie quotidienne de la plupart des gens. J'aimerais savoir tout d'abord ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans ce domaine. Est-ce que c'est une véritable passion pour ce média ?
Alors à l'origine, j'étais une auditrice comme beaucoup de personnes peuvent l'être et je faisais des études d'histoire et j'avais un goût particulier pour l'histoire de la radio, mais j'avais jamais envisagé spécialement de m'y intéresser jusqu'à ce que je découvre l'existence d'un master qui s'appelle Histoire et audiovisuel qui existe encore aujourd'hui, dispensé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Et qu'est-ce que vous avez découvert alors ?
Moi spécifiquement, mes recherches, j'ai travaillé sur l'histoire de la radio nocturne, donc c'est un pan un peu moins connu de l'histoire de la radio, mais que j'ai étudié sur le temps long, puisque ma thèse portait sur l'histoire de la radio nocturne de 1945 à 2012, donc je remontais pas au tout début de la radiodiffusion. Et j'ai découvert que la radio, oui, c'était un médium formidable pour accompagner la vie des auditeurs, le quotidien des individus, même si on le sait sans forcément avoir besoin de l'étudier. Mais j'ai notamment étudié beaucoup d'archives sonores quand elles existent, des courriers d'auditeurs et d'auditrices aussi, pour voir le lien qui peut exister entre celui qui fait la radio et celui qui reçoit les programmes. Et j'ai pu vérifier qu'il y avait un lien, une proximité très forte et que la radio pouvait être vraiment créateur de liens sociaux. On y reviendra plus peut-être.
Oui, ultérieurement, on va l'évoquer dans ces entretiens. Bien sûr, la radio, c'est d'abord une technique élaborée petit à petit. Je le disais dans l'introduction de cette émission, on attribue à Marconi, l'italien Marconi, la première liaison hertzienne. Quelles sont les techniques sur lesquels on s'appuie pour mettre en place cette liaison qui va tout changer?
Comme vous le disiez, on attribue souvent la paternité de la radio à l'italien Marconi, ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque ça a été le premier à émettre des ondes entre deux bâtiments à une centaine de mètres de distance. Mais avant lui, il y a une succession de découvertes scientifiques et d'inventions qui ont permis d'arriver progressivement à la radio, à ce qu'on appelait à l'époque, à la fin du 19e siècle, la télégraphie sans fil. Alors pour retracer un petit peu l'apparition de l'invention de ce médium, la radio prend sa source à partir de milieu de la fin du 19e siècle, s'inscrit dans un siècle où, au 19e, il y a la volonté des ingénieurs, des scientifiques de l'époque d'essayer de capter le monde environnant. Au début du 19e siècle, la volonté, c'est de capter l'image avec l'invention de la lithographie au début du 19e siècle, puis de la photographie dans les années 1820-1830. On ne s'intéresse pas d'abord au son. Et puis, on va s'intéresser au son à partir des années 1870-1880 avec l'invention du phonographe. En parallèle, dans les années 1860, il y a le physicien écossais Maxwell qui a développé la théorie unifiée du champ sonore, qui a découvert en fait le caractère ondulatoire des ondes électromagnétiques. Et à partir de cette première découverte du caractère ondulatoire des ondes électromagnétiques, le physicien allemand Hertz va développer une théorie pour mettre au point un producteur justement d'ondes électromagnétiques, d'où le nom de onde hertzienne, donc du nom de ce physicien allemand, de cet inventeur allemand. Donc là, on est à la fin des années 1880. C'est la première application, si on veut, de la théorie développée par Maxwell dans les années 1860. Et puis, dans les années 1890, il va y avoir différents chercheurs dans plusieurs pays. On a notamment le physicien Édouard Broglie en France, qui va apporter sa pierre à l'édifice de ces inventions qui vont mener à la radio. Lui, il développe ce qu'on appelle un cohéreur qui va permettre d'améliorer la cohérence de transmission des ondes sonores, et également un austro-hongrois Tesla qui participe. En Russie, on a Popov. Et en Italie, il y a ce fameux Marconi, dont le nom est passé davantage à la postérité, puisque lui, il fait franchir un pas, un petit peu, donc il est contemporain de ces autres chercheurs qui travaillent, physiciens qui travaillent sur ces questions, et lui, il est le premier qui va permettre d'émettre des ondes radio sur plusieurs centaines de mètres entre deux bâtiments. Et à partir de là, il se rend en Angleterre pour faire connaître ses travaux, et il va s'exprimer devant la Société Royale, et ça suscite l'émoi du monde scientifique, puisque, en fait, il a réussi à faire connaître ses travaux, et du coup, à faire financer ses travaux. Il avait aussi une âme d'industriel, il va créer rapidement l'entreprise Marconi, qui deviendra Pathé Marconi. Et à partir de là, donc on a la toute fin du 19e siècle, le monde occidental s'intéresse à ce nouveau moyen de communication qui permet d'envoyer des messages à une distance qui va être de plus en plus lointaine. Et la radiotélégraphie ou la TSF, télégraphie sans fil, va d'abord être utilisée notamment dans la marine pour la sécurité maritime, pour que les bateaux communiquent en cas de problème, par exemple, c'est des signaux SOS. Et également
il y avait eu le
dans
morse.
L'armée. Oui, et d'ailleurs, la radio, en fait, les débuts de la radio, le morse a été créé aussi au 19e siècle, et la radio, au début, ce procédé, la télégraphie sans fil, ne diffuse que du langage morse. Jusqu'au 1906, on ne diffuse pas de voix humaine via ces ondes électromagnétiques.
La suite de l'histoire.
Et alors, à quel moment est-ce qu'on va être en mesure de le faire ?
1906, avec un Américain qui s'appelle Reginald Fessenden, qui, le premier, réussit à émettre de la voix et de la musique. Il est sur la côte est des États-Unis et il a l'idée de faire ça le soir, la veille de Noël, le 24 décembre 1906. Son idée, c'est de, pourquoi pas, tenir compagnie aux marins, aux gens qui sont sur des bateaux, justement, le long de la côte. Et donc, il leur propose, c'est assez court, mais il leur propose un petit discours. Il joue lui-même au violon, il interprète Douce Nuit, et il lit un passage de la Bible. Et il demande aux auditeurs potentiels qui recevraient ces messages radio de lui envoyer des courriers. Il donne son adresse pour avoir une preuve d'avoir été entendu.
Et ça a été un succès.
Et ça a été, je ne sais plus combien de lettres il a reçues, mais il a eu la preuve qu'il a été entendu sur plusieurs centaines de kilomètres de distance le long de la côte. Et à partir de là, l'armée perçoit le potentiel de ce moyen de communication qui permet de communiquer très rapidement et d'être pratique, notamment en cas de conflit. Et c'est notamment pendant la Première Guerre mondiale que la radio va être beaucoup utilisée par les armées. Et cette période de la Première Guerre mondiale va permettre à la radio de faire de grands progrès techniques, puisque à des fins stratégiques dans le conflit, il va falloir développer, améliorer, affiner la technique.
Et on se donne les moyens de le faire.
Et on se donne les moyens de le faire.
On dit que c'est la radio qui a sauvé la Tour Eiffel.
Oui, tout à fait. La Tour Eiffel, donc, qui avait été érigée pour l'exposition universelle de 1889, en principe, elle aurait pu être démontée 20 ans plus tard, donc à partir de 1909. Mais dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on se rend compte du potentiel de ce grand monument, ce grand bâtiment dans
très
Paris,
haut.
Très haut. Et ça peut être utile pour la télégraphie sans fil, puisqu'on peut y installer des antennes qui vont permettre de pouvoir émettre les ondes radio plus loin. Et de fait, ça va être utilisé assez rapidement. Le premier qui réussit à établir une liaison radio en morse entre la Tour Eiffel et le Panthéon, 4 km de distance, c'était donc un Français qui s'appelait Eugène Ducretet et qui a utilisé la Tour Eiffel donc en 1898. À partir de là, on a cessé d'utiliser la Tour Eiffel comme un point sur lequel on pourra mettre des antennes. Donc, jusqu'au tout début des années 20, en fait, la radio n'est utilisée que par la marine, l'armée ou par des radios amateurs, des passionnés qui ont leur petit poste et qui peuvent émettre et recevoir des messages.
Et à partir de radios, 1921, qu'est-ce qui se passe ?
1921, ça va être la création des stations de radio comme on les connaît aujourd'hui. À l'origine, elles ne proposaient pas des programmes toute la journée, mais c'est à partir du 24 décembre 1921 qu'on a la première radio qui s'appelait Radio Tour Eiffel, justement, puisque son antenne était sur la Tour Eiffel, qui va diffuser quotidiennement des programmes à heure fixe. Donc ça pouvait être des retransmissions de musique, des informations, etc. Et progressivement, on a étoffé ces grilles de programmes pour couvrir une plus large part de la journée.
Le 6 janvier 1922, un phonographe est installé devant un pavillon. La radio de la Tour Eiffel diffuse quelques disques du ténor italien Enrico Caruso.
Oh,
Donc ça ne va cesser de se développer, mais ça n'a d'intérêt que si il y a des récepteurs. Donc le poste de radio à proprement parler, à quel moment est-ce qu'il fait son apparition ?
Jusqu'au début des années 1920, on n'a pas de poste de radio tel qu'on peut se les figurer ou qu'on les a vus représenter, les gros postes en bois, un massif imposant qui trônait au milieu du salon. Ça commence à apparaître dans les années 20 et dans les années 30, ça devient un objet progressivement de consommation courante. Mais jusqu'aux années 20, quand la radio n'était encore pas vraiment développée, donc avec des stations, c'était des petits récepteurs et qu'on écoutait de manière individuelle avec un casque. Et c'est vraiment progressivement à partir des années 20 où on n'a plus besoin d'avoir un casque et on passe à une écoute plus collective. Et ceux qui écoutaient la radio étaient ceux qui en faisaient aussi. Donc c'était vraiment des amateurs technophiles qui en faisaient jusqu'aux années 20. Et donc à partir du début des années 20, au début c'est un objet quand même qui est cher. Puis après donc, le meuble poste se transforme et devient progressivement un objet de consommation courante. Ça le devient dans les années 1930.
Avec un haut-parleur donc.
Avec un haut-parleur et donc on passe à cette écoute avec haut-parleur collective. Et le poste de radio s'installe progressivement dans les foyers français, mais dans les foyers un peu partout à travers le monde. Et par exemple, en 1922, en France, donc un an après la création de la première station régulière, on avait 40 000 postes de radio sur tout le territoire, donc c'était très peu. Et en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on a 5 millions de postes de radio en France. Donc même si on n'a pas encore forcément dans tous les foyers, c'est quand même devenu un objet de consommation courante. Et en général, il y en a un qui trône au milieu du salon ou dans la cuisine. Et on se réunit autour du poste pour écouter de manière collective.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Marine Beccarelli, on trouve donc environ 5 millions de postes de radio répartis sur le territoire français. Autant dire que le succès est fulgurant. On voit donc la démocratisation de ce média, de ce médium et puis de l'objet qui permet d'écouter la radio, de ce récepteur. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès ?
Le succès de la radio, c'est un peu une révolution quand la radio arrive dans les foyers à partir des années 20 et surtout à partir des années 30, puisque pour la première fois, on va avoir des voix et des musiques extérieures qui pénètrent au cœur des foyers, qui pénètrent dans l'intimité des foyers et qui apportent tout un monde, des contenus culturels, des informations et certaines choses qui étaient inaccessibles à une partie de la population. Notamment, au début de la radio, on va avoir beaucoup de captations et de retransmissions de pièces de théâtre ou de concerts. Et donc, toute une partie de la population qui n'avait pas forcément la possibilité de se rendre au théâtre ou de se rendre dans une salle de concert, ont ce nouveau type de spectacle qui arrive de manière assez facile chez eux, dans leur salon.
Et gratuitement.
Et gratuitement. Et donc, c'est un divertissement, disons, qui est assez révolutionnaire. Quand la radio est créée, le cinéma existe déjà. Mais ce qui est intéressant de signaler aussi, c'est que le cinéma, au moment où la radio est créée, n'est encore qu'un art muet. Et la radio amène ce son. Et avec le son, c'est tout un monde, tout un imaginaire qui arrive encore une fois dans les foyers et qui peut faire voyager les auditeurs sans bouger de chez eux. Donc voilà, en ce sens, c'est assez révolutionnaire et on comprend que ça ait pu capter vraiment l'attention des auditrices et des auditeurs de l'époque.
Le succès, il est toute génération confondue ?
Oui, alors on n'a pas vraiment d'études sur les débuts de la radio dans les premières décennies. Les sondages arrivent à partir de la fin des années 30, surtout des années 40, qu'on va avoir vraiment des sondages sur les pratiques d'écoute de la radio et le succès de telles ou telles émissions. Mais en tout cas, dans les premières décennies de la radio, jusqu'au milieu des années 50, l'écoute de la radio est essentiellement collective, puisqu'encore une fois, on a une radio assez imposante qui trône au milieu des salons. Et la famille se réunit autour du poste pour écouter religieusement la radio. Parfois, souvent, en plus, en se mettant autour de la radio comme s'il y avait quelque chose à voir, alors qu'il y avait simplement à entendre. Donc, c'était une écoute qui pouvait être transgénérationnelle. Et il y avait aussi bien les parents, les grands-parents, les enfants qui pouvaient écouter les mêmes types de programmes. Après, très rapidement, la radio a aussi proposé des programmes, par exemple en journée, destinés aux femmes qui étaient davantage au foyer. Donc, on avait des types de programmes qui étaient destinés plus aux femmes. Progressivement, on a eu aussi des programmes destinés aux enfants, le jeudi, le jour de relâche de l'école.
Donc, des rendez-vous comme ça.
Et avec des rendez-vous.
Quotidiens ou hebdomadaires.
Voilà, quotidiens ou hebdomadaires. Ce que la radio a fait aussi en construisant ces grilles de programmes, c'est justement, oui, créer ces rendez-vous et créer cette attente. Et ce rendez-vous des auditeurs avec assez rapidement des feuilletons radiophoniques. Donc chaque soir, on pouvait retrouver les personnages, suivre la suite d'une histoire, etc. De la même façon qu'on avait pu avoir des feuilletons dans la presse écrite. Mais là, la radio amenait par le fait que c'était la voix, par le médium sonore qui encore une fois sollicite l'imaginaire, permettait de toucher peut-être de manière plus intime les auditeurs et les auditrices.
Est-ce que sa vocation principale, c'est le divertissement ?
Alors, non, traditionnellement, c'est un des créateurs de la BBC qui disait que la radio avait trois missions, éduquer, informer et distraire. Le triptyque de la radiodiffusion, et je crois qu'il était aussi repris par les dirigeants des premières radios de l'époque, sachant qu'en France, on y reviendra peut-être quand on parlera davantage de politique, mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a des radios privées et des radios publiques qui coexistent. Et il y a à la fois du divertissement, donc bien sûr, mais également l'idée, c'est de donner des informations beaucoup plus rapidement encore que la presse écrite, puisque la spécificité de la radio, c'est d'être instantané, de pouvoir rendre compte de l'événement quasiment au moment où...
En temps réel.
En temps réel, au moment où il se passe, c'est l'apparition du direct. Mais au-delà, donc, il y a aussi la volonté d'éduquer, qui animait donc essentiellement les dirigeants des radios publiques. Il y a eu l'idée que avec la radio, on pouvait aussi élever les populations, leur apporter des connaissances sur la grande musique, la musique classique, leur apprendre des choses sur l'histoire, etc.
Et donc, la radio s'y emploie donc.
Et la radio s'y employait dès les origines, et notamment la radio publique, dont un des objectifs était, oui, d'éduquer les populations et d'apporter des connaissances.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Hasard de Jacques de Crest dans une adaptation radiophonique de Jenny Orléans. Avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Claude Michel, Marcel Bozuffi, Jenny Orléans, Jacques Amiran, Patrice Galbeau, Jacques Hilling, Gaëtan Jor et Jacqueline Rivière.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Ah, Durand. Bonjour, mon vieux.
Ah, Gilles. Eh bien, mon cher commissaire, je vous ai appelé deux fois au téléphone.
Oui, je sais.
Alors, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est le rôle de la radio dans la diffusion, c'est le cas de le dire, de chansons et de ce qui vont devenir des tubes.
Oui, bien sûr. En fait, la radio, elle apparaît et elle s'est construite au croisement de médias et d'art qui étaient déjà existants. Donc, le théâtre existait déjà, mais la radio va lui donner un porte-voix et faire découvrir le théâtre à des populations qui n'y avaient pas accès. Et la radio ne va pas se permettre simplement de diffuser du théâtre, mais elle va aussi créer du théâtre radiophonique, puisqu'on se rend compte que simplement donner à entendre une pièce de théâtre, si on n'a pas, comme on n'a pas l'image, il faut peut-être créer d'autres choses. Donc on va aussi inventer les bruitages. D'ailleurs, en parallèle, ça se développe en parallèle des recherches. Quand le son arrive au cinéma, il y a vraiment un croisement, une porosité entre les bruiteurs de la radio et les bruiteurs du cinéma. Et donc le théâtre et la musique, donc bien évidemment la radio va jouer un grand rôle dans la diffusion de la musique et le développement de l'industrie du disque. Donc avant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les disques 78 tours, mais la radio va diffuser ces disques, va faire connaître des artistes au grand public, et ça va être d'autant plus vrai avec l'apparition du 45 tours et après la Seconde Guerre mondiale, où la radio va effectivement contribuer à créer des tubes et créer des vrais succès musicaux et créer des stars de la chanson. La radio parle aussi du cinéma, invite les vedettes du cinéma. Enfin, il y a
donc
vraiment
on entend leur
croisement.
Voix.
Voilà, on entend leur voix.
On a accès aux coulisses.
Tout à fait. Et la radio va également développer l'intérêt pour les compétitions sportives.
Grâce au direct, d'ailleurs, vous parliez du direct
il y a un instant. Grâce au direct.
Je pense évidemment au Tour de France.
Bien sûr, le Tour de France, les matchs de football aussi, où c'est la première fois. Auparavant, on pouvait suivre les compétitions. Il y avait un décalage, on ne pouvait pas les suivre en direct. Si on n'était pas sur place, dans le stade ou sur le bord de la route.
Et on avait les résultats.
Le
lendemain, par la presse.
Voilà, avec un délai. Alors que là, pour la première fois, on pouvait vivre le match, on pouvait vivre le Tour de France, on pouvait vivre l'événement sportif en direct avec des commentateurs. C'est la création aussi de ce métier de commentateur avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient parfois des comédiens. C'est intéressant de voir comment des professions se sont créées avec ce nouveau média qui apparaissait.
Est-ce que justement ça a un impact sur ces manifestations sportives qui peut-être jusque-là étaient peu connues ou dont on se faisait assez peu l'écho?
Oui, tout à fait. En fait, c'est la médiatisation de l'événement sportif qui va susciter un intérêt, un attrait nouveau chez les auditeurs, et puis plus tard aussi avec la télévision, ce sera d'autant plus vrai quand il y aura de l'image, mais ne serait-ce qu'avec le commentaire sportif en direct, effectivement, ça va créer un intérêt qui va avoir des impacts économiques, effectivement.
Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti pied gauche, double contact, Pires qui va redresser peut-être pour représenter qui frappe.
L'incomparable Eugène Saccomanno commente sur Europe 1 la finale de l'Euro 2000 qui oppose la France à l'Italie.
Nous donne la victoire, un mouvement exceptionnel de Pires qui, comme à son habitude, file sur le côté gauche.
La suite de l'histoire.
Est-ce qu'il y a un modérateur en quelque sorte, quelqu'un qui s'assure que les programmes sont en lien avec les bonnes mœurs ou qu'il n'y a pas de dérapage?
Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pas vraiment. En fait, dès les origines de la radio, on se rend compte que c'est quelque chose qu'il faut contrôler parce que ça peut potentiellement être dangereux, les programmes peuvent être dérangeants, etc. Mais pendant longtemps, il n'y avait pas d'instance qui était spécialement dévolue à cela. Et puis comme on avait aussi les radios publiques et les radios privées, il n'y avait pas d'instance qui chapeautait l'ensemble. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est rendu compte de l'impact réel que peut avoir les émissions de radio.
Ça peut aller jusqu'à la propagande.
Oui, bien sûr, ça peut aller jusqu'à la propagande. Mais c'est vrai que la France, d'ailleurs, a mis plus longtemps que d'autres pays à se rendre compte de ce potentiel et de la capacité d'utiliser la radio à des fins de propagande politique. Mais il y a des pays, en Italie, Mussolini, ou en Allemagne, Hitler l'a compris très tôt, lors de la guerre d'Espagne, donc dans les années 30, aussi la radio était vraiment utilisée à des fins de propagande. Et la France, c'est vraiment seulement après la Deuxième Guerre mondiale, où la radio, il y a eu une véritable guerre des ondes entre la radio de l'occupant allemand, Radio Paris, Radio Vichy, qui était la radio de la collaboration, et puis la Radio Londres. Après la Seconde Guerre mondiale, on nationalise la radio et les radios privées sont interdites et il y a une volonté de contrôle qui est plus grande. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de réel contrôle et pas de censure puisque comme l'essentiel des programmes était fait en direct, en fait, c'était très difficile de contrôler en amont. Et donc, on a choisi ensuite de nationaliser la radio et d'interdire les radios privées et de contrôler bien davantage les contenus avec l'interdiction des radios privées.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur.
Marine Beccarelli, grâce à la radio, on peut découvrir des chansons. L'industrie du disque va bien sûr très largement s'appuyer sur ce nouveau média. On peut avoir les résultats sportifs en direct. Mais la radio, c'est aussi un moyen d'avoir des nouvelles. On se souvient qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, les grandes décisions politiques sont annoncées aux Français par le biais de la radio. Le maréchal Pétain s'adresse aux Français par la radio. La radio est vraiment l'instrument privilégié pour s'adresser aux Français et leur communiquer, là en l'occurrence, les mauvaises nouvelles.
Oui, c'est vraiment le média qui va être utilisé au début de la Seconde Guerre mondiale, notamment par le maréchal Pétain pour s'adresser aux Français. C'est la radio que le général de Gaulle utilise via les ondes de la BBC depuis Londres pour appeler à la résistance le 18 juin 40. Et le contrôle de la radio suite à l'arrivée des Allemands en France, ça va être une des premières choses justement, prendre ce contrôle de la radio. Et de la même façon, la radio va être utilisée comme un outil de résistance donc de la part de la BBC. Et il va y avoir une véritable guerre des ondes entre Radio Paris, qui est vraiment sous la botte de l'occupant allemand, Radio Vichy, la radio de la collaboration, et donc les programmes en français de la BBC. Sachant que la BBC, en fait, proposait déjà depuis le début des années 30, d'autres programmes en langues étrangères, des programmes dits en ondes courtes. Les ondes courtes, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend l'expression, permettant de diffuser sur une distance plus lointaine. Et assez rapidement, donc, la BBC va développer des programmes en français, avec notamment donc, l'émission Les Français parlent au français, qui va être diffusée tous les soirs. Et en réaction, l'occupant allemand va essayer de brouiller ces émissions. Les personnes qui voulaient l'écouter avaient plutôt intérêt à se cacher, parce que officiellement, c'était interdit sous l'occupation, donc d'écouter.
Et on risquait gros.
Voilà, on risquait gros.
Donc avec les fameux messages codés, dont certains auront une importance cruciale dans la suite des événements, puisque c'est l'annonce du débarquement et des choses de cette importance-là qui se font par ce biais-là.
Oui, tout à fait. La radio a vraiment été utilisée par les résistants, les canaux de résistance, comme un moyen de faire passer des messages codés. Et la radio joue un rôle vraiment important au moment du débarquement allié. C'est grâce à la radio que certaines informations ont pu passer auprès des résistants.
Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, la radio, c'est aussi le lieu de la propagande du régime de Vichy.
Oui, oui, bien sûr, c'était une guerre, quand je parlais aussi de guerre des ondes, donc c'était le lieu de la propagande du régime de Vichy qui va adhérer progressivement à l'idéologie nazie, d'abord donc en soutenant vraiment l'occupant et progressivement en diffusant des messages l'idéologie antisémite du régime nazi, et ce qu'essayaient de faire les ondes de la BBC notamment, mais l'idée était de démonter ce que disaient les uns et les autres, et puis il y a cette chanson bien connue qui était diffusée sur la BBC, enfin ce petit air bien connu, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
La suite de l'histoire.
Et la force de cette radio dans la propagande, et ce que, encore une fois, donc Goebbels et Hitler avaient bien compris dès les années 30, c'est que par son caractère intime et sa manière de pénétrer dans l'intimité des foyers, a un potentiel de séduction et de fascination très fort. Et ça peut être beaucoup plus facile de convaincre par la radio, par la voix, que par un texte diffusé dans le journal, par exemple. Donc c'est là à la fois l'attrait de la séduction et la fascination et le danger que peut représenter la radio. Et c'est pour ça qu'après la Seconde Guerre mondiale, après la libération, la France donc a récupéré ces stations. Il a fallu reconstruire le réseau d'émetteurs qui avait été détruit par la guerre. Mais la volonté, ça a été justement de contrôler vraiment davantage
les
ce
contenus
qui peut être diffusé. Et c'est pour ça qu'on a nationalisé la radio à ce moment-là.
Ici Londres, notre 9e bulle dans l'information est terminée. Bonheur et patrie. Allô, allô. Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien.
Pour en revenir à cette écoute clandestine de la BBC, tout le monde savait comment faire. À partir du moment où on avait un poste de radio chez soi, on était en mesure d'écouter la BBC et donc ces messages codés.
Oui, si on avait un poste de radio qui permettait d'écouter les ondes courtes, parce que tous les postes de radio n'étaient pas forcément équipés, mais si on était équipé d'ondes courtes, on pouvait entendre, il suffisait de tourner le bouton. Après, c'est assez difficile de mesurer. Alors, il y a des historiens qui ont spécifiquement travaillé là-dessus, je pense notamment à Aurélie Luneau ou Hélène Eck, mais c'est assez difficile de mesurer quelle a été l'écoute réelle, parce qu'elle était clandestine, l'écoute réelle de la BBC. Sans doute qu'au début de l'occupation, c'était quand même pas si important que ça. Et par exemple, qui a vraiment entendu le général de Gaulle le 18 juin.
Manifestement, c'est quand même très peu de Français.
Très peu de Français.
À l'écoute.
Voilà, ça, c'est, on peut en être assez certain.
Une fois que la guerre guerre est terminée, vous le disiez, il y a un souci vraiment des autorités de s'assurer des contenus diffusés via la radio. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de censure ?
Oui, alors la censure, déjà, elle avait été mise en place dès le début, justement, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en septembre 1939, au début de la drôle de guerre, l'État français décide de mettre en place une censure des programmes, ce qui n'était pas le cas avant, mais parce que le cadre de la guerre l'exigeait. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, il y a un contrôle plus grand qui est mis en place sur la radio. Les programmes sont davantage scrutés. Il y a des comités d'écoute des programmes parmi les membres de ce qui s'appelle alors la RDF, la radiodiffusion française, qui se structure puis qui deviendra ensuite la RTF à la fin des années 40 quand apparaît la télévision, donc la radiodiffusion télévision française. Il y a en tout cas une volonté de contrôler les programmes. Après, Une censure à proprement parler, c'est vrai qu'il y a une volonté de contrôle.
De toute façon, c'est nationalisé.
C'est nationalisé. Donc, et si les programmes ne conviennent pas, les personnes, on va leur taper sur les doigts et on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils changent quelque chose. Ou voilà. Donc, c'est assez encadré. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc, les programmes sont nationalisés, mais dans les faits, il existe des radios qu'on appelle périphériques et qui sont tolérées par le gouvernement, dont les émetteurs sont situés à l'extérieur des frontières françaises.
Comme par exemple
Radio Luxembourg, donc les émetteurs étaient au Luxembourg. Europe numéro 1 ne sera créée qu'en 1955, mais ses émetteurs seront dans la Sarre en Allemagne. On a Radio Monte Carlo qui émet depuis Monaco, Sud Radio qui deviendra Radio Andorre depuis Andorre. Et donc il y a une tolérance, en fait, l'État français d'ailleurs participe financièrement via une société qui s'appelle la Sofirad, malgré tout, à ces radios privées. Donc, il y a une
espèce. Quel est son intérêt ?
Ben, comme la publicité est interdite sur la radio publique, l'État français bénéficie des revenus publicitaires d'une manière un peu détournée.
Marine Beccarelli, outre le rôle de la radio pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire de la France contemporaine où la radio joue un rôle assez notoire ?
Dans la suite du XXe siècle, la radio a joué un rôle politique important à plusieurs occasions. Je pense notamment au moment de la guerre d'Algérie, donc entre 1954 et 1962, où la radio va être utilisée, là encore, comme un outil de propagande, si on peut dire, puisque l'État français va, pendant le conflit, contribuer à diffuser le combat pour garder l'Algérie française, donc via les ondes de Radio Alger. Et de la même façon que les résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu écouter en cachette la BBC, on a en Algérie les partisans de l'indépendance qui vont écouter La Voix des Arabes, qui émettait depuis le Caire, ou l'émission La Voix de l'Algérie libre et combattante sur Radio Tunis. D'ailleurs, au moment du putsch des généraux, un peu comme au moment de la Seconde Guerre mondiale, où une des premières manifestations, ça a été de prendre la parole à la radio pour dire qu'ils avaient réalisé leur putsch.
Reculez ! Les étudiants en charge ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de trois avec leurs boucliers.
Je pense aussi au moment de mai 68, la radio va vraiment suivre l'événement en direct. C'est le média de l'instantané qui permet d'être au courant, de suivre l'actualité. Et comme les radios, la radio officielle, la radio d'État, qui s'appelait à ce moment-là l'ORTF, donc est contrôlée par l'État et donc est moins libre dans ses propos. Et on va retrouver vraiment, notamment sur Europe numéro 1 et RTL, donc Radio Luxembourg qui est devenue RTL, des reporters qui vont être au cœur de l'événement dans les manifestations du quartier latin à Paris, qui sont aux côtés des étudiants et qui font entendre le reportage en direct de ce qui est en train de se passer, des affrontements avec la police, etc.
Les manifestants eux-mêmes de s'auto-organiser, c'est-à-dire de voir comment faire les barricades, de la faire de telle manière que vous soyez à distance respectable de la police, ne la faire pas n'importe où, voyez les positions stratégiques et après faites vos barricades. Allez occuper les quartiers latins.
Camarades, partout, dans tout le quartier latin, il a été construit des barricades. Je crois que nous avons tous intérêt, non pas à chercher à la bagarre, mais à chercher à se défendre.
Voilà. Je sais pas.
Une barricade. Avec quoi?
Laissez continuer là.
Pour des pavés de rue, il y en a pour
tout. Et c'est assez aussi nouveau de pouvoir rendre compte de l'événement. Les auditeurs pouvaient suivre de manière presque immersive ce qui était en train de se passer. Et il y a eu certaines négociations, enfin certaines choses qui se sont, par exemple, la nuit du 10 mai 1968, connue comme étant la nuit des barricades, où il y a des affrontements toute la nuit et des volontés de dialogue entre les recteurs, etc. Et il y a plein de choses qui se passent justement par la radio. Des messages à destination des manifestants qui sont diffusés sur les ondes, puisque ce qu'il faut dire aussi, c'est que...
L'apparition du transistor à voilà, pile, qu'on peut emmener n'importe où avec soi.
Au milieu des années 50, on a l'apparition du transistor qui individualise la radio et qui permet de faire sortir la radio de chez soi, d'avoir plusieurs appareils récepteurs dans différentes pièces, etc.
Et qui coûte beaucoup moins cher.
Et qui coûte moins cher. Et finalement, dans les moments politiques importants, souvent, la radio a joué un grand rôle.
Jusqu'à l'explosion de la télévision.
Oui, oui, bien sûr. La télévision a pris un petit peu cette place à partir des années 70.
Vous avez souligné à plusieurs reprises au cours de ces entretiens, Marine Beccarelli, la particularité de la radio qui est d'entrer dans l'intimité des foyers et de créer une espèce de familiarité et de connivence avec des voix. Ces voix, elles sont pour un certain nombre d'entre elles entrées dans l'histoire, soit parce qu'elles ont eu un timbre particulier, soit parce qu'elles sont associées à un programme particulier. Et donc, il y a comme ça des voix ou des programmes phares dans l'histoire de la radio en France. Est-ce que c'est un aspect qui vous a intéressé dans votre étude, vous qui vous êtes particulièrement intéressé au programme nocturne de la radio ?
Oui, certaines personnalités radiophoniques ont su attirer des auditeurs en grand nombre depuis les débuts de la radiodiffusion, soit par leur voix, soit par leur ton, soit par leur façon de présenter, leur modernité. Je me suis beaucoup intéressée à cette question, notamment donc, dans le cadre de la radio nocturne, où évidemment il y a une série de voix phares et de personnalités qui ont surgi. Si on commence par la radio de la nuit, oui, en général... La première personne auquel on pense quand on parle de radio de nuit, c'est Macha Béranger, qui a été pendant 29 ans aux commandes de l'émission Allô Macha sur France Inter, qui répondait aux appels des auditeurs en difficulté ou non, pour leur donner des conseils, etc., et qui avait une voix très particulière,
alors,
très grave.
Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait, selon vous, le succès de Macha Béranger et qui faisait que sa voix collait parfaitement bien à cette heure de diffusion et à ce type de programme ?
Eh bien, elle avait une voix très grave, très chaude, sensuelle.
Bonsoir, Macha Béranger avec vous pour un nouvel après-midi jusqu'à 3h du matin.
Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 2h du matin.
Eh bien, je suis très impatiente de vous retrouver afin que vous me racontiez vos secrets jardins de nuit et certaines de vos étranges musiques, comme toujours, très tranquillement, 45, 24, 7 minutes.
Et dans cette dimension de la radio de nuit, en tout cas pour les femmes qui ont été à l'antenne la nuit, voilà, on mettait un peu en avant cette possibilité en fait, de faire rêver l'auditeur
masculin.
Et masculin, puisque voilà, on considérait davantage cet auditeur-là. Et les premiers sondages aussi montraient que vraisemblablement la radio la nuit était plus écoutée par des hommes que par des femmes. Donc elle pouvait séduire un auditoire plutôt masculin. Elle était enveloppante, elle pouvait avoir un côté vraiment rassurant. Et la réception qu'elle a reçue dans la presse juste après les débuts de l'émission, donc l'émission a été créée en 1978, il y a une écrivaine qui s'appelle Victoria Teram qui écrivait dans Charlie Hebdo. Elle parle d'une voix de liane qui s'enroule à l'arbre. Elle se dit que cette voix de Macha Béranger est exceptionnelle. Elle se disait les hommes vont tromper leurs femmes sans bouger de leur lit juste en écoutant cette voix, etc. Bon, voilà. Donc, il y a cette figure dans la nuit de Macha Béranger. Autre grand personnage de la nuit, José Arthur, qui était aussi sur France Inter et qui a aussi une longévité très importante, qui animait le programme qui s'appelait Le Pop Club, diffusé entre 1965 et 2005, qui était une émission de ce qu'on appelle aujourd'hui deuxième partie de soirée, donc qui commençait grosso modo entre 23h et 1h du matin. matin, qui était à l'origine dans un bar de la maison de la radio. Donc c'était pas dans un studio traditionnel. Après, ça a été dans des bars en dehors de la maison de la radio. Et cet animateur, lui, avait une voix plutôt perchée. Enfin,
il y a un autre style.
Un autre style, assez provocateur. En 1965, quand il est arrivé, il avait une façon de faire de la radio qui prenait un petit peu le contrepoint de ce qui se faisait alors, en tout cas sur les radios publiques qui étaient davantage sérieuses. Mais il y a eu d'autres personnages la nuit, comme Max Meynier, qui animait sur RTL l'émission Les routiers sont sympas, qui était une émission, comme son nom l'indique, à destination prioritairement des chauffeurs routiers. Okay. L'idée était de leur donner, de leur apporter une compagnie.
Les accompagner tout au long de la route.
Voilà. Mais aussi de donner des informations, pourquoi pas, à leur famille, ou faire passer des informations sur l'état des routes, etc.
Je vous salue. Je vous souhaite une bonne route. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle d'embarquement, dans votre salle d'embarquement, RTL Calberson, sur le toit des entrepôts Calberson, en plein ciel de Paris, juste à la limite.
Donc on le voit, tout un univers, hein, cette radio nocturne. Est-ce qu'il y a d'autres types d'animations ou de programmes à évoquer quand on parle de l'histoire de la radio?
Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Je pourrais pas, je pense, tous les évoquer
par grande famille.
Mais disons, si on peut identifier, il y a eu très vite des jeux radiophoniques. C'est la radio qui a inventé le crochet radiophonique, c'est-à-dire le concours de chansons avec des auditeurs qui viennent chanter et on élisait le vainqueur, donc qui a ensuite été transposé et retransposé jusqu'à aujourd'hui à la télévision. Enfin, c'est un concept qui existe toujours. Et sur Radio Luxembourg, notamment, c'était Zappy Max, qui était un grand animateur très célèbre dans l'après-Seconde Guerre mondiale, qui animait les radios crochets. Je peux citer comme grande voix des jeux aussi Jean Nohain, également sur Radio Luxembourg. On a eu le jeu des 1000 francs sur France Inter, qui a eu plusieurs grandes voix, mais qui existe depuis 1958 et qui est une institution. Au-delà de ces émissions de jeux, il y a eu les émissions donc qui ont diffusé de la musique, des chansons.
Salut
les copains pour les jeunes auditeurs, de Franck Thénault et Daniel Philippaki, qui a été créé en 1959 et qui a apporté un vent nouveau sur les ondes de la radio. Et c'était la première fois qu'on avait un programme véritablement générationnel
à l'adresse des adolescents.
À l'adresse des adolescents et des jeunes qui, en sortant de l'école, se branchaient sur leur poste et écoutaient des programmes qui leur étaient spécifiques. Destiné. On a eu des émissions aussi donc de fiction, donc par exemple le Grand Feuilleton, qui a été créé dans l'entre-deux-guerres et qui a continué à exister après la Seconde Guerre mondiale. C'était la famille du raton, notamment avec Lise Elina, la journaliste Lise Elina, qui incarnait la fille de cette famille du raton. Et le feuilleton, c'était la vie d'une famille française qu'on retrouvait tous les soirs à l'heure du dîner. Voilà. Il y a eu des émissions de fiction plus élaborée. Je pense aussi à une grande voix du soir dans les années 50 qui s'appelait Stéphane Pizzella, qui était un peu une sorte de conteur, qui racontait des histoires, notamment dans Les Nuits du Bout du Monde, et qui racontait des histoires exotiques en prenant l'auditeur par la main, avec une voix aussi très grave, beaucoup de musique, beaucoup d'illustrations musicales. Des émissions policières, par exemple Les Maîtres du Mystère sur le service public. Dans les années 50 et 60, il y avait une grande mode comme ça des émissions policières le soir.
Et puis les émissions interactives avec des appels d'auditeurs. Alors vous avez parlé de celle qui avait lieu la nuit.
Mais la première du genre, c'était Ménie Grégoire sur RTL, qui a été créée en 1967. Et pour la première fois, qui donnait la parole aux auditeurs et aux auditrices, en particulier l'après-midi, sur des thématiques intimes, où il était question d'histoire de couple, de mariage, d'enfants, de sexualité, et qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque.
Quelle année ?
1967. Le début de l'émission, qui a existé une quinzaine d'années. Ménie Grégoire a d'ailleurs reçu un très abondant courrier d'auditeurs et tout est conservé aux archives d'Indre-et-Loire.
Françoise Dolto aussi, qui sur Europe 1 avec Pradel s'est employée à répondre aux questions d'auditeurs en matière d'éducation et de psychologie enfantine, ce qui était quand même assez révolutionnaire, qui lui a valu les foudres de certains de ses confrères médecins, psychiatres.
Tout à fait. Le principe de l'interactivité et des émissions de dialogue téléphonique, c'est quelque chose qui a été propre vraiment à la radio. Et je pense que c'est aussi un moment où la télévision, justement, se développait. Et la radio a dû trouver aussi d'autres terrains sur lesquels elle pouvait mettre en valeur sa spécificité. Et pour le coup, ce concept d'appeler pour raconter sa vie, demander des conseils, c'est quelque chose qui... Enfin, on voit moins l'intérêt à la télévision. Et à la radio, c'est des concepts d'émissions qui existent jusqu'à aujourd'hui.
Un mot peut-être sur ce grand vaisseau qu'est Radio France. Ce bâtiment, il date de quand et qu'est-ce qu'il abrite exactement ?
Il a été inauguré en 1963. À l'origine, il abritait de la RTF, donc Radiodiffusion Télévision Française, en 1963, qui devient l'ORTF en 1964 et qui sera l'ORTF jusqu'en 1974, puisqu'en 1974, on a l'éclatement de l'ORTF, où Radio France va devenir une entité à part, et les chaînes de télévision des entités différentes, avec la création de l'INA, etc. En tout cas, au moment où le bâtiment de la Maison de la Radio est créé, ça accueille les chaînes de radio, des studios de radio, aussi des studios de télévision à l'origine. Et c'est architecturalement... quelque chose de tout à fait nouveau,
très moderne
pour l'époque, et qui est inauguré par le général de Gaulle et qui existe jusqu'à nos jours. Il y a des travaux qui sont menés depuis des années qui ne sont toujours pas finis. Mais aujourd'hui, Radio France accueille encore donc toutes les antennes du groupe Radio France.
L'apparition et la démocratisation, le développement de la télévision, d'après vous, ça marque le début du déclin de la radio?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler du début du déclin de la radio. Certes, la télévision, donc, qui devient dans les années 60 et encore plus dans les années 70 un objet de consommation courante qui arrive dans tous les foyers, enfin dans la majorité des foyers, forcément fait de l'ombre à la radio et constitue une concurrence par rapport à la radio. D'autant plus que la radio était beaucoup écoutée traditionnellement, notamment le soir. Et en tout cas, aux horaires du soir, la radio va être détrônée effectivement par la télévision.
Et la grande messe du 20h.
Et la grande messe du 20h. Mais on a prédit la mort de la radio à de nombreuses reprises, donc notamment au moment où la télévision véritablement s'est démocratisée. Or, la radio n'est pas morte à ce moment-là. Elle n'est pas morte non plus avec l'arrivée d'Internet, etc. Certes, la radio a perdu des auditeurs ou a dû un petit peu se réinventer. Et là, elle continue aussi d'en perdre. Mais je ne sais pas si on peut parler vraiment absolument de déclin de la radio, parce que ça fait plus de 50 ans que la télévision est là et que la radio n'a pas disparu pour autant.
Marine Beccarelli, en quoi est-ce que l'année 1981 marque un tournant dans l'histoire de la radio en France ?
Alors, l'année 1981 marque un tournant puisque les radios libres sont autorisées par le nouveau président de la République, François Mitterrand. C'était une de ses promesses de campagne.
Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Concrètement, ça signifie que depuis la fin des années 1970, donc comme je vous le disais, officiellement, les radios privées étaient interdites. Dans les faits, il y en avait quelques-unes qu'on appelait les radios périphériques, mais qui étaient relativement limitées, donc Europe 1, RT, Radio Monte Carlo, Sud Radio. En dehors de ça, et en dehors des radios publiques, donc France Inter, France Culture, France Musique et FIP, il n'y avait rien d'autre. Et donc, à partir de la fin des années 70, on a un certain nombre, souvent de jeunes personnes, qui protestent contre ce monopole d'État de la radiodiffusion et qui, inspirés un petit peu par ce qui s'est fait notamment en Italie, il y a eu un phénomène de radio pirate, ou plutôt encore les radios pirates britanniques ou scandinaves.
C'est-à-dire qu'elles émettaient sans autorisation.
Voilà, des radios qui émettaient sans autorisation, donc qui étaient illégales et qui devaient se cacher pour émettre, traverser les Alpes pour aller chercher les émetteurs, etc. Et émettre dans des conditions un peu de bricolage, avec des personnes donc qui avaient parfois de métiers le reste de la journée, qui souvent d'ailleurs émettaient le soir, mais pas uniquement, qui devaient trouver des toits, donc notamment dans Paris, mais évidemment il n'y a pas eu que des radios pirates à Paris, mais donc il y a eu, à partir de 1978, une multiplication de stations illégales qui se sont retrouvées sur la bande FM et l'État français brouillait ces programmes qui étaient interdits. Et en 1981, les radios dites libres, ces fameuses radios pirates, sont officiellement autorisées. Donc ça entraîne une multiplication.
L'explosion, là.
C'est l'explosion. Il n'y a plus assez de fréquences sur la bande FM pour accueillir tout le monde. Et donc, il y a la haute autorité qui est mise en place justement pour réguler cette question. Il va y avoir des mariages entre anciennes radios pirates, etc., pour trouver de la place pour tout le monde. Dans les faits, c'est pas possible. Tous les anciens pirates vont pas forcément continuer à faire de la radio, mais en tout cas, à partir de 81, c'est la porte ouverte à cette multiplication des radios FM.
Et qui a envie de faire de la radio alors? Parce que ça demande quand même des moyens.
Il y a une période de 3 ans où la publicité reste interdite. Donc en 1981, certes, les radios, il y a une libéralisation des ondes, les radios privées, enfin les radios libres sont autorisées, mais on ne leur autorise pas la publicité. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas moyen justement
de
subsistance. Donc c'est tout le problème, comment faire des programmes, avec quel argent, etc. Dans les faits, la publicité est interdite, mais assez vite, il y a des radios qui vont contrevenir à cette interdiction. Et finalement, en 1984, la publicité est autorisée. Et c'est un peu le seul moyen, enfin, ça semble être le seul moyen de subsistance pour ces radios.
C'est comme ça que les radios commerciales font leur apparition.
Voilà, donc c'est l'apparition des radios commerciales et des nombreuses radios musicales telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, NRJ, Fun Radio, etc. Et mais on a aussi des radios associatives avec des bénévoles qui vont subsister, etc. Mais on a en tout cas les radios commerciales qui vont prendre un peu le pas sur la créativité et le bouillonnement de toutes les radios un peu expérimentales qu'il y avait pu avoir avec les radios libres, les radios pirates, etc.
Depuis le second tour des élections, on se bouscule sur les ondes. Les radios libres qui émettent en modulation de fréquence entendent ainsi délimiter fermement leur territoire. Réunis hier à Paris, une cinquantaine de représentants de ces radios ont étudié la situation nouvelle créée par la victoire de François Mitterrand. La presse écrite, qui rend ce matin largement compte de cette réunion, ne s'y est pas trompée. Le moment est devenu décisif. Techniquement, il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. 4000 francs de matériel suffisent pour cela. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que les radios diocésaines aussi voient leur apparition. Les radios chrétiennes s'engouffrent dans le...
Tout à fait, il y a une place, bien sûr. C'est un moment où tout type de radio a pu se créer, des radios effectivement thématiques, des radios diocésaines, etc.
On se voit attribuer quand même une fréquence. Il faut demander une autorisation.
Oui, alors par contre, il faut une autorisation. Et donc, il y a aussi des déçus qui peuvent ne pas avoir de fréquence, notamment dans les grandes villes. Mais en tout cas, ce que les radios pirates ont fait, c'est vraiment aussi changer la manière, enfin le ton radiophonique, le son des radios, etc. La manière de s'adresser à l'auditeur change avec cette multiplication des radios. Et auparavant, il n'y avait que quelques radios officielles, que quelques radios autorisées et des professionnels. Et il y avait peu de place pour faire de la radio. Et au moment où ces radios libres sont autorisées, il y a aussi pas mal d'anciens pirates des ondes qui vont rejoindre des radios plus officielles comme Europe 1. Ou...
Vous dites que le ton change, c'est-à-dire c'est moins formaté?
Moins formaté, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être plus familier dans la façon de s'adresser aux auditeurs. Avant les radios libres, on ne tutoyait pas les auditeurs, par exemple. Et à partir de l'apparition des radios libres, certains pirates des ondes et puis certaines radios libres vont parler de manière beaucoup plus familière aux auditeurs. Alors ça dépend évidemment bien sûr des stations. Toutes les radios qui se créent à ce moment-là ne vont pas forcément avoir un ton plus familier, mais disons qu'il y a... certains carcans de la parole qui sautent un peu et du coup d'autres types de programmes et d'autres manières de s'adresser aux auditeurs et d'autres musiques, d'autres contenus peuvent apparaître.
C'est là qu'on voit apparaître des radios qui font hurler les générations les plus anciennes avec ce ton un peu spécial quand même, hein. Koué, par exemple, et autres animateurs du genre qui s'adressent aux jeunes dans un langage pas spécialement très châtié.
Oui, bien sûr. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que ces radios qui deviennent des radios commerciales vont être à un moment donné aussi un peu justement dans la surenchère presque de la provocation, justement dans la manière de s'adresser aux jeunes. On parlait des émissions qui s'adressaient aux auditeurs, des émissions de dialogue avec des auditeurs, Dominique Grégoire, Françoise Dolto, etc. Mais est-ce que les radios, ces radios commerciales, musicales, invente, ça va être les émissions de libre antenne pour les jeunes, ce qui invente ça au début des années 1990, où les jeunes sont invités, les adolescents sont invités à appeler pour parler de sexualité.
Sans filtre.
Sans filtre, et ça fait vraiment scandale. Donc il y a tout un débat au cœur de la société pour savoir si ces émissions ont lieu d'être ou pas. Et voilà, donc Jacques Lang, par exemple, avait défendu ses programmes. Et
ministre
donc,
de la Culture à l'époque.
Pour le coup, le CSA a été mis en place en 1990. 84,
Conseil supérieur de l'audiovisuel,
qui là contrôlait vraiment les contenus, puisqu'on s'adressait à des jeunes auditeurs, il y avait pas mal de plaintes, etc. Mais finalement, donc il y a certains programmes qui ont été obligés de cesser d'émettre, d'autres auxquels on a demandé de s'assagir. Mais on voit bien que d'une manière générale, il y a un ton qui a perduré jusqu'à aujourd'hui et une manière justement de s'exprimer aux jeunes dans un langage, effectivement, comme vous le disiez, pas très châtié.
Extrait de l'émission Louis Muron à rendez-vous avec, du 15 avril 1988, sur Fourvière FM.
Bonjour, Louis Muron à rendez-vous avec Madame Hélène Carrère-Dancos à propos d'un livre qu'elle vient de publier chez Fayard, Le malheur russe, essai sur le meurtre politique. Madame, bienvenue au micro de Radio Fourvière. Je vais laisser s'éloigner tranquillement et je vais vous demander de m'y accompagner. Notre autre invité qui est Boris Goutnov de Moussorgsky et c'est la voix d'Ivan Petrov, une voix remarquable, avouez.
Ah oui, tout à fait exceptionnelle.
Oui. Vous venez de publier un ouvrage qui est passionnant. Non.
Aujourd'hui, Marine Beccarelli, qu'est-ce qui fait la particularité de la radio du 21e siècle? Et si on devait envisager son avenir, d'après vous, vers quoi on se dirige?
Pour parler des évolutions les plus récentes, c'est vrai que la radio a quand même beaucoup changé ces dernières années, depuis le milieu des années 2000, avec l'apparition du podcast qui s'est beaucoup développé depuis. Donc il y a à la fois les stations traditionnelles qui font des émissions en direct et ces émissions sont ensuite disponibles à la réécoute, ce qui fait qu'on peut écouter une radio à la carte. On n'est plus forcément justement dans le partage d'un moment en direct. On se fait sa radio...
Son propre programme.
Son propre programme. Et puis, il n'y a plus que les radios traditionnelles qui font de la radio, ont du contenu sonore, puisque effectivement il y a tout un tas de podcasts qui sont produits par des boîtes, des entreprises de production de podcasts, etc. Et même si c'est vrai que la radio continue régulièrement à chaque sondage de médiamétrie où nous indique que la radio perd régulièrement des auditeurs, on voit qu'il y a quand même un attrait pour le son qui ne disparaît pas totalement. Et au contraire, l'essor des podcasts montre qu'il y a un vrai intérêt pour le son.
Peut-être parce qu'on est saturé d'images.
Peut-être aussi parce qu'on est saturé d'images. Et de la même façon que la majorité des radios aussi maintenant filment leur contenu et produisent, s'inscrivent dans une logique de médias globales où on peut avoir de l'image à mettre sur les réseaux sociaux, etc. Où l'image est partout, effectivement, sur les réseaux sociaux. Mais je crois que le succès des podcasts montre qu'il y a encore une place et justement un désir de couper un peu l'image et de se réapproprier seulement l'expérience et l'écoute à travers le son. Je crois que le son a de l'avenir indépendamment de l'image et en tout cas ce qu'on observe avec le succès des podcasts semble le démontrer, oui.
Merci beaucoup, Marine Beccarelli, de nous avoir accompagnés dans ces émissions pour évoquer donc l'histoire de la radio. Je rappelle que vous êtes historienne, chercheuse en histoire de la radio, enseignante à l'Université Sorbonne 1 et que vous collaborez à France Culture. Merci beaucoup à vous et merci à Pierre-Henri Paget à la technique.
Merci.